Un jour, après le déjeuner, par une des premières belles matinées du mois d'avril, Emmanuel vint au moment où M. Claës sortait. Balthazar supportait si difficilement l'aspect de sa maison qu'il allait se promener le long des remparts pendant une partie de la journée. Emmanuel voulut suivre Balthazar. Il hésita, parut puiser des forces en lui-même, regarda Marguerite et resta. Marguerite devina que le professeur voulait lui parler et lui proposa de venir au jardin. Elle renvoya sa sœur Félicie près de Martha qui travaillait dans l'antichambre, située au premier étage. Puis elle s'alla placer sur un banc où elle pouvait être vue de sa sœur et de la vieille Duègne. Monsieur Claës est aussi absorbé par le chagrin qu'il l'était par ses recherches savantes, dit le jeune homme en voyant Balthazar marchant lentement dans la cour. Tout le monde le plaint en ville. Il va comme un homme qui n'a plus ses idées. Il s'arrête sans motif, regarde sans voir. Chaque douleur a son expression, dit Marguerite en retenant ses pleurs. Que vouliez-vous me dire ? Reprit-elle après une pause et avec une dignité froide. Mademoiselle, répondit Emmanuel d'une voix émue, ai-je le droit de vous parler comme je vais le faire ? Ne voyez, je vous prie, que mon désir de vous être utile, et laissez-moi croire qu'un professeur peut s'intéresser au sort de ses élèves, au point de s'inquiéter de leur avenir. Votre frère Gabriel a 15 ans passés, il est en seconde, et certes, il est nécessaire de diriger ses études dans l'esprit de la carrière qu'il embrassera. Monsieur votre père est maître de décider cette question. Mais s'il n'y pensait pas, ne serait-ce pas un malheur pour Gabriel ? Ne serait-ce pas aussi bien mortifiant pour monsieur votre père si vous lui faisiez observer qu'il ne s'occupe pas de son fils ? Dans cette conjoncture, ne pourriez-vous pas consulter votre père sur ses goûts ? Lui faire choisir par lui-même une carrière, afin que si, plus tard, son père voulait en faire un magistrat, un administrateur, un militaire, Gabriel eût déjà des connaissances spéciales. Je ne crois pas que ni vous ni M. Claës, vous vouliez le laisser oisif.
Oh non, dit Marguerite, je vous remercie, M. Emmanuel, vous avez raison. Ma mère, en nous faisant faire de la dentelle, en nous apprenant avec tant de soin à dessiner, à coudre, à broder, à toucher du piano, nous disait souvent qu'on ne savait pas ce qui pouvait arriver dans la vie. Gabriel doit avoir une valeur personnelle et une éducation complète. Mais quelle est la carrière la plus convenable que puisse prendre un homme ?
Mademoiselle, dit Emmanuel en tremblant de bonheur, Gabriel est celui de sa classe qui montre le plus d'aptitude aux mathématiques. S'il voulait entrer à l'école polytechnique, je crois qu'il y acquerrait des connaissances utiles dans toutes les carrières. À sa sortie, il resterait le maître de choisir celle pour laquelle il aurait le plus de goût. Sans avoir rien préjugé jusque-là sur son avenir, vous aurez gagné du temps. Les hommes sortis avec honneur de cette école sont les bienvenus partout. Elle a fourni des administrateurs, des diplomates, des savants, des ingénieurs, des généraux, des marins, des magistrats, des manufacturiers et des banquiers. Il n'y a donc rien d'extraordinaire à voir un jeune homme riche ou de bonne maison travaillant dans le but d'y être admis. Si Gabriel s'y décidait, je vous demanderais, me l'accorderez-vous ? Dites oui. Que voulez-vous ? Être son répétiteur, dit-il en tremblant. Marguerite regarda M. de Solis, lui prit la main et lui dit « Oui ». Elle fit une pause et ajouta d'une voix émue « Combien j'apprécie la délicatesse qui vous fait offrir précisément ce que je puis accepter de vous. Dans ce que vous venez de dire, je vois que vous avez bien pensé à nous. Je vous remercie. » Quoique ces paroles fussent dites simplement, Emmanuel détourna la tête pour ne pas laisser voir les larmes que le plaisir d'être agréable à Marguerite lui fit venir aux yeux. « Je vous les amènerai tous les deux, » dit-il, quand il eut repris un peu de calme.
C'est demain jour de congé. » Il se leva, salua Marguerite qui le suivit, et quand il fut dans la cour, il la vit encore à la porte de la salle à manger, d'où elle lui adressa un signe amical. Après le dîner, le notaire vint faire une visite à M. Claës, et s'assit dans le jardin, entre son cousin et Marguerite, précisément sur le banc où s'était mis Emmanuel. « Mon cher cousin, dit-il, je suis venu ce soir pour vous parler affaires. 43 jours se sont écoulés depuis le décès de votre femme. Je ne les ai pas comptés, dit Balthazar en essuyant une larme, que lui arracha le mot légal de décès. « Oh, monsieur, dit Marguerite en regardant le notaire, comment pouvez-vous ? Mais, ma cousine, nous sommes forcés, nous autres, de compter des délais qui sont fixés par la loi. Il s'agit précisément de vous et de vos cohéritiers. Monsieur Claës n'a que des enfants mineurs. Il est tenu de faire un inventaire dans les 45 jours qui suivent le décès de sa femme, afin de constater les valeurs de la communauté. Ne faut-il pas savoir si elle est bonne ou mauvaise, pour l'accepter, ou pour s'en tenir aux droits purs et simples des mineurs ? Marguerite se leva. « Restez, ma cousine, dit Pierre Quint. Ces affaires vous concernent, vous et votre père. Vous savez combien je prends part à vos chagrins, mais il faut vous occuper aujourd'hui même de ces détails, sans quoi vous pourriez, les uns et les autres, vous en trouver fort mal. Je fais en ce moment mon devoir comme notaire de la famille. Il a raison, dit Claës. Le délai expire dans 2 jours, reprit le notaire. Je dois donc procéder, dès demain, à l'ouverture de l'inventaire, quand ce ne serait que pour retarder le paiement des droits de succession que le fisc va venir vous demander. Le fisc n'a pas de cœur. Il ne s'inquiète pas des sentiments. Il met sa griffe sur nous en tout temps. Donc, tous les jours, depuis 10 heures jusqu'à 4 heures, mon clerc et moi, nous viendrons avec l'huissier priseur, Monsieur Raparlier. Quand nous aurons achevé en ville, nous irons à la campagne. Quant à la forêt de Vigny, nous allons en causer. Cela posé, passons à un autre point. Nous avons un conseil de famille à convoquer pour nommer un subroger tuteur. Monsieur Coninx de Bruges est aujourd'hui votre plus proche parent. Mais le voilà devenu belge. Vous devriez, mon cousin, lui écrire à ce sujet. Vous sauriez si le bonhomme a envie de se fixer en France, où il possède de belles propriétés, et vous pourriez le décider ainsi à venir, lui et sa fille, habiter la Flandre française. S'il refuse, je verrai à composer le conseil d'après les degrés de parenté. « À quoi sert un inventaire ? » demanda Marguerite. « À constater les droits, les valeurs, l'actif et le passif. » Quand tout est bien établi, le conseil de famille prend dans l'intérêt des mineurs les déterminations qu'il juge. « Pierre Quint, dit Claës qui se leva du banc, procédez aux actes que vous croirez nécessaires à la conservation des droits de mes enfants. Mais évitez-nous le chagrin de voir vendre ce qui appartenait à ma chair. » Il n'acheva pas. Il avait dit ces mots d'un air si noble et d'un ton si pénétré que Marguerite prit la main de son père et la baisa. « À demain, dit Pierre Quint. Venez déjeuner, dit Balthazar. Puis Claës parut rassembler ses souvenirs et s'écria, « Mais, d'après mon contrat de mariage, qui a été fait sous la coutume de Hainaut, j'avais dispensé ma femme de l'inventaire, afin qu'on ne la tourmentât point. Je n'y suis probablement pas tenu non plus. Ah, quel bonheur !» dit Marguerite. « Il nous aurait causé tant de peine. « Eh bien, nous examinerons votre contrat demain, » répondit le notaire un peu confus. « Vous ne le connaissiez donc pas ?» lui dit Marguerite. Cette observation interrompit l'entretien. Le notaire se trouva trop embarrassé de continuer, après l'observation de sa cousine. « Le diable s'en mêle, » se dit-il dans la cour. « Cet homme si distrait retrouve la mémoire, juste au moment où il le faut, pour empêcher de prendre des précautions contre lui. Ses enfants seront dépouillés, c'est aussi sûr que 2 et 2 font 4. Parlez donc affaire à des filles de 19 ans, qui font du sentiment. Je me suis creusé la tête pour sauver le bien de ces enfants-là, en procédant régulièrement, et en m'entendant avec le bonhomme Coninx, et voilà, je me perds dans l'esprit de Marguerite, qui va demander à son père pourquoi je voulais procéder à un inventaire, qu'elle croit inutile. Et M. Claes lui dira que les notaires ont la manie de faire des actes, que nous sommes notaires avant d'être parents, cousins ou amis, enfin des bêtises. Il ferma la porte avec violence, en pestant contre les clients qui se ruinaient par sensibilité. Balthazar avait raison, l'inventaire n'eut pas lieu. Rien ne fut donc fixé sur la situation dans laquelle se trouvait le père vis-à-vis de ses enfants. Plusieurs mois s'écoulèrent, sans que la situation de la maison Claes changeât. Gabriel, habilement conduit par M. de Solis qui s'était fait son précepteur, travaillait avec application, apprenait les langues étrangères et se disposait à passer l'examen nécessaire pour entrer à l'école polytechnique. Félicie et Marguerite avaient vécu dans une retraite absolue, en allant, néanmoins, par économie, habiter pendant la belle saison la maison de campagne de leur père. M. Claes s'occupa de ses affaires, paya ses dettes en empruntant une somme considérable sur ses biens et visita la forêt de Vénier. Au milieu de l'année 1817, son chagrin, lentement apaisé, le laissa seul et sans défense contre la monotonie de la vie qu'il menait et qui lui pesa. Il lutta d'abord courageusement contre la science, qui se réveillait insensiblement, et se défendit à lui-même de penser à la chimie. Puis il y pensa. Mais il ne voulut pas s'en occuper activement. Il ne s'en occupa que théoriquement. Cette constante étude fit surgir sa passion, qui devint ergoteuse. Il discuta s'il s'était engagé à ne pas continuer ses recherches, et se souvint que sa femme n'avait pas voulu de son serment. Quoiqu'il se fût promis à lui-même de ne plus poursuivre la solution de son problème, ne pouvait-il changer de détermination du moment où il entrevoyait un succès? Il avait déjà 59 ans. À cet âge, l'idée qui le dominait contracta l'âpre fixité par laquelle commencent les monomanies. Les circonstances conspirèrent encore contre sa loyauté chancelante. La paix dont jouissait l'Europe avait permis la circulation des découvertes et des idées scientifiques acquises pendant la guerre par les savants des différents pays, entre lesquels il n'y avait point eu de relations depuis près de 20 ans. La science avait donc marché. Claes trouva que les progrès de la chimie s'étaient dirigés, à l'insu des chimistes, vers l'objet de ses recherches. Les gens adonnés à la haute science pensaient comme lui que la lumière, la chaleur, l'électricité, le galvanisme et le magnétisme étaient les différents effets d'une même cause, que la différence qui existait entre les corps jusque-là réputés simples devait être produite par les divers dosages d'un principe inconnu. La peur de voir trouver par un autre la réduction des métaux et le principe constituant l'électricité, deux découvertes qui menaient à la solution de l'absolu chimique, augmenta ce que les habitants de Douai appelaient une folie et porta ses désirs à un paroxysme que concevront les personnes passionnées pour les sciences ou qui ont connu la tyrannie des idées. Aussi, Balthazar fut-il emporté par une passion d'autant plus violente qu'elle avait plus longtemps endormi. Marguerite, qui épiait les dispositions d'âme par lesquelles passait son père, ouvrit le parloir. En y demeurant, elle ranima les souvenirs douloureux que devait causer la mort de sa mère, et réussit en effet, en réveillant les regrets de son père, à retarder sa chute dans le gouffre où il devait néanmoins tomber. Elle voulut aller dans le monde, et força Balthazar d'y prendre des distractions. Plusieurs parties considérables se présentèrent pour elle, et occupèrent Claes, quoique Marguerite déclarât qu'elle ne se marierait pas avant d'avoir atteint sa 25e année. Malgré les efforts de sa fille, malgré de violents combats, au commencement de l'hiver, Balthazar reprit secrètement ses travaux. Il était difficile de cacher de telles occupations à des femmes curieuses. Un jour donc, Martha dit à Marguerite en l'habillant, « Mademoiselle, nous sommes perdus. Ce monstre de mulquinier, qui est le diable déguisé, car je ne lui ai jamais vu faire le signe de la croix, est remonté dans le grenier. Voilà, monsieur, votre père embarqué pour l'enfer. Fasse le ciel qu'il ne vous tue pas. comme il a tué cette pauvre chère madame. « Cela n'est pas possible, » dit Marguerite. « Venez voir la preuve de leur trafic. » Mademoiselle Claës courut à la fenêtre et aperçut en effet une légère fumée qui sortait par le tuyau du laboratoire. « J'ai 21 ans dans quelques mois, » pensa-t-elle. « Je saurai m'opposer à la dissipation de notre fortune. » En se laissant aller à sa passion, Balthazar dut nécessairement avoir moins de respect pour les intérêts de ses enfants qu'il n'en avait eu pour sa femme. Les barrières étaient moins hautes, sa conscience était plus large, sa passion devenait plus forte. Aussi marcha-t-il dans sa carrière de gloire, de travail, d'espérance et de misère, avec la fureur d'un homme plein de conviction. Sûr du résultat, il se mit à travailler nuit et jour, avec un emportement dont s'effrayèrent ses filles, qui ignoraient combien est peu nuisible le travail auquel un homme se plaît. Aussitôt que son père eut recommencé ses expériences, Marguerite retrancha les superfluités de la table, devint d'une parcimonie digne d'un avare, et fut admirablement secondée par Josette et Martha. Claës ne s'aperçut pas de cette réforme, qui réduisait la vie au strict nécessaire. D'abord il ne déjeunait pas, puis il ne descendait de son laboratoire qu'au moment même du dîner. Enfin il se couchait, quelques heures après être resté dans le parloir entre ses deux filles, sans leur dire un mot. Quand il se retirait, elle lui souhaitait le bonsoir, et il se laissait embrasser machinalement sur les deux joues. Une semblable conduite eût causé les plus grands malheurs domestiques si Marguerite n'avait pas été préparée à exercer l'autorité d'une mère et prémunie par une passion secrète contre les malheurs d'une si grande liberté. Pierrequin avait cessé de venir voir ses cousines en jugeant que leur ruine allait être complète. Les propriétés rurales de Balthazar, qui rapportaient 16 000 francs et valaient environ 200 000 écus, étaient déjà grevées de 300 000 francs d'hypothèque. Avant de se remettre à la chimie, Claës avait fait un emprunt considérable. Le revenu suffisait précisément au paiement des intérêts. Mais comme, avec l'imprévoyance naturelle aux hommes voués à une idée, il abandonnait ses fermages à Marguerite pour subvenir aux dépenses de la maison, le notaire avait calculé que 3 ans suffiraient pour mettre le feu aux affaires et que les gens de justice dévoreraient ce que Balthazar n'aurait pas mangé. La froideur de Marguerite avait amené Pierrequin à un état d'indifférence presque hostile. Pour se donner le droit de renoncer à la main de sa cousine, si elle devenait trop pauvre, il disait des Claës avec un air de compassion « Ces pauvres gens sont ruinés. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour les sauver. Mais que voulez-vous ? Mademoiselle Claës s'est refusée à toutes les combinaisons légales qui devaient les préserver de la misère. » Nommé proviseur du collège de Douai, par la protection de son oncle, Emmanuel, que son mérite transcendant avait fait digne de ce poste, venait voir tous les jours pendant la soirée les deux jeunes filles, qui appelaient près d'elles la duègne, aussitôt que leur père se couchait. Le coup de marteau doucement frappé par le jeune soliste ne tardait jamais. Depuis 3 mois, encouragé par la gracieuse et muette reconnaissance avec laquelle Marguerite acceptait ses soins, il était devenu lui-même. Les rayonnements de son âme pure comme un diamant brillèrent sans nuage, et Marguerite put en apprécier la force, la durée, en voyant combien la source en était inépuisable. Elle admirait une à une s'épanouir les fleurs, après en avoir respiré par avance les parfums. Chaque jour, Emmanuel réalisait une des espérances de Marguerite, et faisait luire dans les régions enchantées de l'amour de nouvelles lumières qui chassaient les nuages, rassérénaient leur ciel et coloraient les fécondes richesses, ensevelies jusque-là dans l'ombre. Plus à son aise, Emmanuel put déployer les séductions de son cœur, jusqu'alors discrètement cachées. Cette expansive gaieté du jeune âge, cette simplicité que donne une vie remplie par l'étude, et les trésors d'un esprit délicat, que le monde n'avait pas adultéré, toutes les innocentes joyeusetés qui vont si bien à la jeunesse aimante. Son âme et celle de Marguerite s'entendirent mieux, ils allèrent ensemble au fond de leur cœur, et y trouvèrent les mêmes pensées, perles d'un même éclat, suaves et fraîches harmonies, semblables à celles qui sont sous la mer et qui, dit-on, fascinent les plongeurs. Ils se firent connaître l'un à l'autre par ces échanges de propos, par cette alternative curiosité qui, chez tous deux, prenait les formes les plus délicieuses du sentiment. Ce fut sans fausse honte, mais non sans de mutuelles coquetteries. Les 2 heures qu'Emmanuel venait passer, tous les soirs, entre ces 2 jeunes filles et Martha, faisaient accepter à Marguerite la vie d'angoisse et de résignation dans laquelle elle était entrée. Cet amour naïvement progressif fut son soutien. Emmanuel portait dans ses témoignages d'affection cette grâce naturelle qui séduit tant, cet esprit doux et fin qui nuance l'uniformité du sentiment, comme les facettes relèvent la monotonie d'une pierre précieuse en faisant jouer tous les feux. Admirable façon dont le secret appartient aux cœurs aimants et qui rendent les femmes fidèles à la main artiste sous laquelle les formes renaissent toujours neuves, à la voix qui ne répète jamais une phrase sans la rafraîchir par de nouvelles modulations. L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est un art aussi. Quelques mots simples, une précaution, un rien révèlent à une femme le grand et sublime artiste qui peut toucher son cœur sans le flétrir. Plus allait Emmanuel, plus charmantes étaient les expressions de son amour. « J'ai devancé Pierre Quin, lui dit-il un soir. Il vient vous annoncer une mauvaise nouvelle. Je préfère vous la prendre moi-même. Votre père a vendu votre forêt à des spéculateurs qui l'ont revendue par partie. Les arbres sont déjà coupés. Tous les madriers sont enlevés. Monsieur Claes a reçu 300 000 francs comptants dont il s'est servi pour payer ses dettes à Paris. Et pour les éteindre entièrement, il a même été obligé de faire une délégation de 100 000 francs sur les 100 000 écus qui restent à payer par les acquéreurs. » Pierre Quin entra. « Eh bien, ma chère cousine, dit-il, vous voilà ruinée. Je vous l'avais prédit, mais vous n'avez pas voulu m'écouter. Votre père a bon appétit. Il a, de la première bouchée, avalé vos bois. Votre subrogé tuteur, Monsieur Coninx, est à Amsterdam, où il achève de liquider sa fortune, et Claes a saisi ce moment-là pour faire son coup. Ce n'est pas bien. Je viens d'écrire au bonhomme Coninx. Mais, quand il arrivera, tout sera fricassé. Vous serez obligé de poursuivre votre père. Le procès ne sera pas long, mais ce sera un procès déshonorant que Monsieur Coninx ne peut se dispenser d'intenter. La loi l'exige. Voilà le fruit de votre entêtement. Reconnaissez-vous maintenant combien j'étais prudent, combien j'étais dévoué à vos intérêts? Je vous apporte une bonne nouvelle, mademoiselle, dit le jeune de Solis de sa voix douce. Gabriel est reçu à l'école polytechnique. Les difficultés qui s'étaient élevées pour son admission sont aplanies. Marguerite remercia son ami par un sourire et dit « Mes économies auront une destination. Martha, nous nous occuperons dès demain du trousseau de Gabriel. Ma pauvre Félicie, nous allons bien travailler, dit-elle en baisant sa sœur au front. Demain, vous l'aurez ici pour 10 jours. Il doit être à Paris le 15 novembre. Mon cousin Gabriel prend un bon parti, dit le notaire en toisant le proviseur. Il aura besoin de se faire une fortune. Mais, ma chère cousine, il s'agit de sauver l'honneur de la famille. Voudrez-vous cette fois m'écouter? Non, dit-elle, s'il s'agit encore de mariage. Mais qu'allez-vous faire? Moi, mon cousin? Rien. Cependant, vous êtes majeur. Dans quelques jours, avez-vous, dit Marguerite, un parti à me proposer, qui puisse concilier nos intérêts et ce que nous devons à notre père, à l'honneur de la famille? Cousine, nous ne pouvons rien sans votre oncle. Cela posé, je reviendrai quand il sera de retour. Adieu, monsieur, dit Marguerite. Plus elle devient pauvre, plus elle fait la bégueule, pensa le notaire. Adieu, mademoiselle, reprit Pierre Quin à haute voix. Monsieur le proviseur, je vous salue parfaitement. Et il s'en alla, sans faire attention ni à Félicie ni à Martha. Depuis 2 jours, j'étudie le code et j'ai consulté un vieil avocat, ami de mon oncle, dit Emmanuel d'une voix tremblante. Je partirai, si vous m'y autorisez, demain, pour Amsterdam. Écoutez, chère Marguerite, Il disait ce mot pour la première fois. Elle l'en remercia par un regard mouillé, par un sourire et une inclination de tête. Il s'arrêta, montra Félicie et Martha. « Parlez devant ma sœur, » dit Marguerite. Elle n'a pas besoin de cette discussion pour se résigner à notre vie de privation et de travail. Elle est si douce et si courageuse. Mais elle doit connaître combien le courage nous est nécessaire. Les deux sœurs se prirent la main et s'embrassèrent, comme pour se donner un nouveau gage de leur union devant le malheur. « Laissez-nous, Martha. »«
Chère Marguerite, » reprit Emmanuel en laissant percer, dans l'inflexion de sa voix, le bonheur qu'il éprouvait à conquérir les menus droits de l'affection. Je me suis procuré les noms et la demeure des acquéreurs, qui doivent les 200 000 francs restants sur le prix des bois abattus. Demain, si vous y consentez, un avoué agissant au nom de M. Coninx, qui ne le désavouera pas, mettra opposition entre leurs mains. Dans 6 jours, votre grand-oncle sera de retour. Il convoquera un conseil de famille et fera émanciper Gabriel, qui a 18 ans. Étant, vous et votre frère, autorisés à exercer vos droits, vous demanderez votre part dans le prix des bois. Monsieur Claës ne pourra pas vous refuser les 200 000 francs arrêtés par l'opposition. Quant aux 100 000 francs qui vous seront encore dus, vous obtiendrez une obligation hypothécaire, qui reposera sur la maison que vous habitez. Monsieur Coninx se réclamera des garanties pour les 300 000 francs qui reviennent à Mademoiselle Félicie et à Jean. Dans cette situation, votre père sera forcé de laisser hypothéquer ses biens de la plaine d'Orchy, déjà grevés de 100 000 écus. La loi donne une priorité rétroactive aux inscriptions prises dans l'intérêt des mineurs. Tout sera donc sauvé. Monsieur Claës aura désormais les mains liées. Vos terres sont inaliénables. Il ne pourra plus rien emprunter sur les siennes, qui répondront de sommes supérieures à leur prix. Les affaires se seront donc faites en famille, sans scandale, sans procès. Votre père sera forcé d'aller prudemment dans ses recherches, si même il ne les cesse tout à fait.
« Oui, dit Marguerite, mais où seront nos revenus? Les 100 000 francs hypothéqués sur cette maison ne nous rapporteront rien. Le produit des biens que possède mon père dans la plaine d'Orchy paiera les intérêts des 300 000 francs dus à des étrangers. Avec quoi vivrons-nous?
D'abord, dit Emmanuel, en plaçant les 50 000 francs qui resteront à Gabriel sur sa part, dans les fonds publics, vous en aurez, d'après le taux actuel, plus de 4 000 livres de rente qui suffiront à sa pension et à son entretien à Paris. Gabriel ne peut disposer ni de la somme inscrite sur la maison de son père, ni du fonds de ses rentes. Ainsi, vous ne craindrez pas qu'il en dissipe un denier, et vous aurez une charge de moins. Puis, ne vous restera-t-il pas 50 000 francs à vous? Mon père me les demandera, dit-elle avec effroi, et je ne saurais pas les lui refuser.
Eh bien, chère Marguerite, vous pouvez les sauver encore, en vous en dépouillant. Placez-les sur le grand livre, au nom de votre frère. Cette somme vous donnera 12 ou 13 000 livres de rente, qui vous feront vivre. Les mineurs émancipés ne pouvant rien aliéner sans l'avis d'un conseil de famille, vous gagnerez ainsi 3 ans de tranquillité. À cette époque, votre père aura trouvé son problème, ou vraisemblablement y renoncera. Gabriel, devenu majeur, vous restituera les fonds pour établir les comptes entre vous quatre. Marguerite se fit expliquer de nouveau des dispositions de loi qu'elle ne pouvait comprendre tout d'abord. Ce fut certes une scène neuve que celle des deux amants étudiant le code dont s'était muni Emmanuel pour apprendre à sa maîtresse les lois qui régissaient les biens des mineurs. Elle en eut bientôt saisi l'esprit grâce à la pénétration naturelle aux femmes et que l'amour aiguisait encore. Le lendemain, Gabriel revint à la maison paternelle. Quand M. de Solis le rendit à Balthazar, en lui annonçant l'admission à l'école polytechnique, le père remercia le proviseur par un geste de main et dit « J'en suis bien aise. Gabriel sera donc un savant. »« Oh mon frère, » dit Marguerite en voyant Balthazar remonter à son laboratoire, « travaille bien, ne dépense pas d'argent. Les jours où tu sortiras dans Paris, va chez nos amis, chez nos parents, pour ne contracter aucun dégoût qui ruine les jeunes gens. Ta pension monte à près de 1 000 écus. Il te restera 1 000 francs pour tes menus plaisirs. Ce doit être assez. Je réponds de lui, dit Emmanuel de Solis en frappant sur l'épaule de son élève. Un mois après, M. Coninx avait, de concert avec Marguerite, obtenu de Claës toutes les garanties désirables. Les plans si sagement conçus par Emmanuel de Solis furent entièrement approuvés et exécutés. En présence de la loi, devant son cousin, dont la probité farouche transigeait difficilement sur les questions d'honneur, Balthazar, honteux de la vente qu'il avait consentie, dans un moment où il était harcelé par ses créanciers, se soumit à tout ce qu'on exigea de lui. Satisfait de pouvoir réparer le dommage qu'il avait presque involontairement fait à ses enfants, il signa les actes avec la préoccupation d'un savant. Il était devenu complètement imprévoyant, à la manière des nègres qui, le matin, vendent leur femme pour une goutte d'eau-de-vie et la pleurent le soir. Il ne jetait même pas les yeux sur son avenir le plus proche. Il ne se demandait pas quelles seraient ses ressources quand il aurait fondu son dernier écu. Il poursuivait ses travaux, continuait ses achats, sans savoir qu'il n'était plus le possesseur titulaire de sa maison, de ses propriétés, et qu'il lui serait impossible, grâce à la sévérité des lois, de se procurer un sou, sur les biens desquels il était en quelque sorte le gardien judiciaire. L'année 1818 expira sans aucun événement malheureux. Les deux jeunes filles payèrent les frais nécessités par l'éducation de Jean, et satisfirent à toutes les dépenses de leur maison, avec les 18 000 francs de rente, placés sous le nom de Gabriel, dont les semestres leur furent envoyés exactement par leurs frères. Monsieur de Solis perdit son oncle dans le mois de décembre de cette année. Un matin, Marguerite apprit par Martha que son père avait vendu sa collection de tulipes, le mobilier de la maison de devant et toute l'argenterie. Elle fut obligée de racheter les couverts nécessaires au service de la table et les fit marquer à son chiffre. Jusqu'à ce jour, elle avait gardé le silence sur les déprédations de Balthazar. Mais le soir, après le dîner, elle pria Félicie de la laisser seule avec son père, et quand il fut assis, suivant son habitude, au coin de la cheminée du parloir, Marguerite lui dit « Mon cher père, vous êtes le maître de tout vendre ici, même vos enfants. Ici, nous vous obéirons tous sans murmure, mais je suis forcé de vous faire observer que nous sommes sans argent, que nous avons à peine de quoi vivre cette année, et que nous serons obligés, Félicie et moi, de travailler nuit et jour pour payer la pension de Jean, avec le prix de la robe de dentelle que nous avons entreprise. Je vous en conjure, mon bon père, discontinuez vos travaux. Tu as raison, mon enfant. Dans 6 semaines, tout sera fini. J'aurai trouvé l'absolu, ou l'absolu sera introuvable. Vous serez tous riches à millions. Laissez-nous pour le moment un morceau de pain, répondit Marguerite. Il n'y a pas de pain ici, dit Claës d'un air effrayé. Pas de pain chez un Claës? Et tous nos biens? Vous avez rasé la forêt de Vigny. Le sol n'en est pas encore libre et ne peut rien produire. Quant à vos fermes d'orchis, les revenus ne suffisent point à payer les intérêts des sommes que vous avez empruntées. Avec quoi vivons-nous donc? Demanda-t-il. Marguerite lui montra son aiguille et ajouta « Les rentes de Gabriel nous aident, mais elles sont insuffisantes. Je joindrai les deux bouts de l'année si vous ne m'accabliez pas de factures auxquelles je ne m'attends pas. Vous ne me dites rien de vos achats en ville. Quand je crois avoir assez pour mon trimestre et que mes petites dispositions sont faites, il m'arrive à mémoire de soude, de potasse, de zinc, de soufre. Que sais-je, ma chère enfant? Encore 6 semaines de patience. Après, je me conduirai sagement, et tu verras des merveilles, ma petite Marguerite. Il est bien temps que vous pensiez à vos affaires. Vous avez tout vendu, tableaux, tulipes, argenterie. Il ne nous reste plus rien. Au moins, ne contractez pas de nouvelles dettes. Je n'en veux plus faire, dit le vieillard. Plus, s'écria-t-elle. Vous en avez donc? Rien, des misères, répondit-il en baissant les yeux et rougissant. Marguerite se trouva pour la première fois humiliée par l'abaissement de son père, et en souffrit tant qu'elle n'osa l'interroger. Un mois après cette scène, un banquier de la ville vint pour toucher une lettre de change de 10 000 francs, souscrite par Claës. Marguerite, ayant prié le banquier d'attendre pendant la journée, en témoignant le regret de n'avoir pas été prévenu de ce paiement, celui-ci l'avertit que la maison Prothèse et Chiffreville en avait 9 autres de la même somme, échéant de mois en mois. « Tout est dit !» s'écria Marguerite. « L'heure est venue !» Elle envoya chercher son père et se promena tout agitée à grands pas dans le parloir, en se parlant à elle-même. « Trouver 100 000 francs, dit-elle, ou voir notre père en prison. Que faire ?» Balthazar ne descendit pas. Lassée de l'attendre, Marguerite monta au laboratoire. En entrant, elle vit son père au milieu d'une pièce immense, fortement éclairée, garnie de machines et de verreries poudreuses. Çà et là, des livres, des tables encombrées de produits étiquetés, numérotés. Partout le désordre qu'entraîne la préoccupation du savant y froissait les habitudes flamandes. Cet ensemble de matras, de cornues, de métaux, de cristallisations fantasquement colorées, d'échantillons accrochés au mur ou jetés sur des fourneaux, était dominé par la figure de Balthazar Claës, qui, sans habit, les bras nus comme ceux d'un ouvrier, montrait sa poitrine couverte de poils blanchis comme ses cheveux. Ses yeux, horriblement fixes, ne quittèrent pas une machine pneumatique. Le récipient de cette machine était coiffé d'une lentille formée par de doubles verres convexes, dont l'intérieur était plein d'alcool et qui réunissait les rayons du soleil, entrant alors par l'un des compartiments de la rose du grenier. Le récipient, dont le plateau était isolé, communiquait avec les fils d'une immense pile de volta. Le mulquini occupé à faire mouvoir le plateau de cette machine, monté sur un axe mobile, afin de toujours maintenir la lentille dans une direction perpendiculaire aux rayons du soleil, se leva la face noire de poussière et dit « Ah, mademoiselle, n'approchez pas !» L'aspect de son père, qui presque agenouillé devant sa machine, recevait d'aplomb la lumière du soleil et dont les cheveux épars ressemblaient à des fils d'argent, son crâne bossué, son visage contracté par une attente affreuse, la singularité des objets qui l'entouraient, l'obscurité dans laquelle se trouvaient les parties de ce vaste grenier, d'où s'élançaient des machines bizarres, tout contribuait à frapper Marguerite qui se dit avec terreur « Mon père est fou !» Elle s'approcha de lui pour lui dire à l'oreille « Renvoyez le mulquinier !»« Non, non, mon enfant, j'ai besoin de lui, j'attends l'effet d'une belle expérience, à laquelle les autres n'ont pas songé. Voici 3 jours que nous guettons un rayon de soleil. J'ai les moyens de soumettre les métaux dans un vide parfait, au feu solaire concentré et à des courants électriques. Vois-tu, dans un moment, l'action la plus énergique dont puisse disposer un chimiste va éclater. Et moi seul, et mon père, au lieu de vaporiser les métaux, vous devriez bien les réserver pour payer vos lettres de change. Attends, attends! Monsieur Mercutus est venu. Mon père, il lui faut 10 000 francs à 4 heures. Oui, oui, tout à l'heure. J'avais signé ces petits effets pour ce mois-ci. C'est vrai. Je croyais que j'aurais trouvé l'absolu. Mon Dieu! Si j'avais le soleil de juillet, mon expérience serait faite. Il se prit par les cheveux, s'assit sur un mauvais fauteuil de canne, et quelques larmes roulèrent dans ses yeux. « Monsieur a raison, tout ça, c'est la faute de ce gredin de soleil qui est trop faible, le lâche, le paresseux !» Le maître et le valet ne faisaient plus attention à Marguerite. « Laissez-nous, mulquinier, » dit-elle. « Ah, je tiens une nouvelle expérience !» s'écria Claës. « Mon père, oubliez vos expériences !» lui dit sa fille quand ils furent seuls. « Vous avez 100 000 francs à payer, et nous ne possédons pas un liard. Quittez votre laboratoire. Il s'agit aujourd'hui de votre honneur. Que deviendrez-vous quand vous serez en prison? Souillerez-vous vos cheveux blancs, et le nom Claës, par l'infamie d'une banqueroute? Je m'y opposerai. J'aurai la force de combattre votre folie. Il serait affreux de vous voir sans pain dans vos derniers jours. Ouvrez les yeux sur notre position. Ayez donc enfin de la raison. Folie ! Cria Balthazar qui se dressa sur ses jambes, fixa ses yeux lumineux sur sa fille, se croisa les bras sur la poitrine et répéta le mot « folie » si majestueusement que Marguerite trembla. « Ah ! Ta mère ne m'aurait pas dit ce mot » reprit-il. « Elle n'ignorait pas l'importance de mes recherches. Elle avait appris une science pour me comprendre. Elle savait que je travaille pour l'humanité, qu'il n'y a rien de personnel ni de sordide en moi. Le sentiment de la femme qui aime et je le vois, au-dessus de l'affection filiale. Oui, L'amour est le plus beau des sentiments. Avoir de la raison, reprit-il en se frappant la poitrine. En manquais-je? Ne suis-je pas moi? Nous sommes pauvres, ma fille. Eh bien, je le veux ainsi. Je suis votre père. Obéissez-moi. Je vous ferai riche quand il me plaira. Votre fortune? Mais c'est une misère! Quand j'aurai trouvé un dissolvant du carbone, j'emplirai votre parloir de diamants. Et c'est une niaiserie en comparaison de ce que je cherche. Vous pouvez bien attendre quand je me consume en efforts gigantesques. Mon père, je n'ai pas le droit de vous demander compte des 4 millions que vous avez engloutis dans ce grenier sans résultat. Je ne vous parlerai pas de ma mère que vous avez tuée. Si j'avais un mari, je l'aimerais sans doute autant que vous aimez ma mère, et je serais prête à tout lui sacrifier, comme elle vous sacrifiait tout. J'ai suivi ses ordres en me donnant à vous tout entière, et je l'ai prouvé, en ne me mariant point, afin de ne pas vous obliger à me rendre votre compte de tutelle. Laissons le passé, pensons au présent. Je viens ici représenter la nécessité que vous avez créée vous-même. Il faut de l'argent pour vos lettres de change, entendez-vous? Il n'y a rien à saisir ici, que le portrait de votre aïeul, Van Claes. Je viens donc au nom de ma mère, qui s'est trouvée trop faible pour défendre ses enfants contre leur père, et qui m'a ordonné de vous résister. Je viens au nom de mes frères et de ma sœur. Je viens, mon père, au nom de tous les Claes, vous commander de laisser vos expériences, de vous faire une fortune à vous, avant de les poursuivre, si vous vous armez de votre paternité, qui ne se fait sentir que pour nous tuer. J'ai pour moi vos ancêtres, et l'honneur, qui parle plus haut que la chimie. Les familles passent avant la science. J'ai trop été votre fille. Et tu veux être alors mon bourreau? Dit-il d'une voix affaiblie.